have given you there some stagger and fall. After all, it's not easy. Banging your heart against some mad bugger's wall.
Série L'écran radiophonique, Radio Canu vous présente un scénario original de Junier Jean-Pierre, Marraine. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement CVRP. En 1860, dans un petit village entre Lyon et Grenoble, le Motier, village au pied d'un coteau boisé tout en longueur. Chez les Martins, qui habitent une maison un peu en retrait du village, leur propriété longe un chemin transversal qui monte au coteau. Ce n'est pas une ferme. Il y a un portage pour entrer dans la cour, où se trouve un bassin et à droite de la maison une écurie. La maison n'a pas de style, elle est faite comme toutes les maisons du village, en terre et pierre. C'est là un étage. Le premier, il y a les chambres, et il y en a quatre. Le rez-de-chaussée, la cuisine, la salle à manger, une pièce qui sert de bureau, et le salon. Les Martins ont été commerçants. Ils avaient une mercerie, mais depuis la mort du père, elle a été vendue, et maintenant ils vivent d'une petite rente. Aujourd'hui, après l'enterrement de la mère qui a lieu hier, la famille est réunie en conseil dans le salon. La pièce est dans la pénombre, les volets sont restés fermés, mais la lumière du jour vient par les persiennes. Elle semble grande, mais nous la décrirons plus tard lorsque les volets seront ouverts. Elles sont assises, toutes les quatre, sur des chaises empaillées autour du bureau. Il y a Amélie Martin, qui est la tante et en même temps la marraine de l'aînée des filles et qui se fait appeler marraine. C'est une grande, sèche femme, le visage autoritaire, les cheveux châtains, tirés et mis en chignon. Elle porte une robe stricte noire, avec dessus une chaîne où pend une croix en or. Si elle était debout, verriez qu'elle a à sa large ceinture accroché un volumineux trousseau de clés. À sa droite se trouve Félicie, c'est la fille aînée. Assez jolie, mince, grande, un visage très fin, avec de beaux yeux bleus. Elle est blonde, porte la même coiffure que sa marraine. Elle était habillée aussi avec une robe noire. En face de la marraine, Marie, qui ressemble à Félicie, mais qui est plus petite et un visage semble toujours rire. Elle est habillée avec une robe marine, à un an de moins que Félicie, 17 ans. À côté d'elle se trouve Rosalie, la petite dernière, 12 ans. Elle est moins jolie que ses sœurs et brune et porte une robe noire. Amélie soupire et dit « Mes pauvres petites, votre maman avant de mourir m'a fait promettre de m'occuper de vous. C'est ce que je vais faire. Vous ne serez pas séparés. Nous vivrons toutes ici. Je m'occuperai de vous comme si vous étiez mes filles. » Rosalie, surprise, dit « Vous allez vivre avec nous ?»« Et oui, ma chérie. Et où allez-vous coucher ?»«
Dans la chambre de ta pauvre maman. »
Dans la chambre de maman?
Et oui, où veux-tu que je couche?
Elle tape dans ses mains.
Allez, allez, maintenant il faut que chacune aille à ses occupations. Félicie, tu viens avec moi, nous visiterons la maison de fond en comble. Marie, à la cuisine pour préparer le repas de midi. Et toi, ma chérie, va dans ta chambre étudier. Allez, oust!
Elle se lève et sortent de la pièce. Une fois sortie, Rosalie tire par la manche Marie. Si elle reste avec nous, elle va nous embrasser tous les jours. J'aime pas sa façon de nous embrasser. Elle mouille. Et en plus, elle nous plaque contre elle à nous étouffer. Chut, tais-toi. Elle peut nous entendre et ça lui fera de la peine. Marraine et Félicie ont monté à l'étage par les escaliers de bois ciré. Une fois sur le palier du premier, elle dit « Je veux voir toutes les chambres. » Elle montre une porte. « C'est laquelle ?»
Celle de maman.
Ah, oui. Elle ouvre la porte et elles entrent. La pièce sent la naphtaline et l'encens. Elle est grande, carrée. Au milieu, un grand lit à deux places avec un édredon rouge dessus. Une table de nuit, dessus un bougeoir. En face de lit, une grande armoire à trois portes et une chaise. La pièce baigne de soleil. Les meubles sont en chêne, style Louis-Philippe. Félicie lui dit « La pièce a été nettoyée. Je vois ma fille. » Et elle va ouvrir l'armoire. À l'intérieur se trouve du linge soigneusement repassé.
Il y en a suffisamment, j'ai pas besoin d'amener le mien. Bon, allons voir une autre pièce.
Et elles sortent de la chambre. face de cette chambre se trouvent deux portes. La première, c'est la mienne. Ma reine l'ouvre et entre. La pièce est plus petite, les meubles sont de la même époque et le lit est à une place.
C'est bien, tout est en ordre. L'intérieur de l'armoire aussi ?
Oui, ma reine. Et elles sortent. L'autre, c'est la chambre de ma sœur. Ma reine entre. Elle voit Rosalie surprise qui la regarde assise à une table.
« Oh, je ne savais pas que tu étais là, ma chérie. Qu'est-ce que tu fais ?»
Elle s'approche de l'enfant.
« J'apprends, ma reine. C'est bien. Continue. »
Et elle l'embrasse sur le front. Regarde la pièce. Deux lits jumeaux. Entre les deux, une table de nuit. Et aussi une table et une chaise.
« C'est bien. Continue. »
Elles sortent de la chambre.
Y a-t-il quelque chose d'autre à voir à l'étage ?
Au fond du couloir se trouve un cabinet de toilette et une pièce qui sert à rien pour le moment.
Oui, je reverrai ça plus tard.
Elles descendent des escaliers. Regarde la salle à manger Louis XV. Sous les housses de drap blanc et arrive à la cuisine. Où se trouve Félicie en train de peler des carottes? La cuisine est vaste, avec une grande table de bois, des chaises autour, une cheminée, un poêle, un évier de pierre sans eau et des casseroles pendues au mur.
Que prépares-tu, ma fille?
Des carottes à la crème blanche,
c'est bien.
La journée commence à 6 heures. Ma reine se lève en chemise de nuit, bonnet de dentelle, et sort de sa chambre pour faire sa toilette. Puis retourne à sa chambre s'habiller. Il frappe aux portes des filles. Lorsqu'elles sortent de leur chambre, embrassent et surveillent leur toilette, puis descendent pour prendre leur petit déjeuner. À 7 heures, Félicie accompagne Rosalie à l'école de Monsieur le Curé et rentre de suite. La journée se passe à nettoyer la maison, le linge et préparer le repas. Puis l'on brode ou l'on lit. Marie-Piane va et vient constamment dans la maison. L'on l'entend de loin. Avec le bruit de ses souliers, et le cliquetis de ses clés qui pendent à sa robe. Marianne semble heureuse et satisfaite au milieu de ces jeunes filles. Elle se dit en riant, « C'est mon harem !» Elle leur sourit, les embrasse et les caresse constamment. C'est elle qui les peigne, leur lave le dos dans le bac et les aide à s'habiller. Elle va même le soir broder les deux dernières dans leur lit. L'affection n'empêche pas la discipline, une discipline stricte et catholique comme il se doit. Messe, dimanche et jour de fête. Après chaque repas, marcher la tête baissée et sans rien voir pour aller au village. Personne ne vient les voir et ne leur parle au village. Elles vivent entre elles dans un monde strictement féminin. Mais Félicie, l'après-midi, en brodant près de la fenêtre, rêve d'une autre vie. Elle sait qu'il existe l'autre, que bientôt elle sera une femme, une vraie. Elle rêve d'indépendance, d'autres horizons et visages. Chaque fois, elle a l'impression d'étouffer. Elle se trouve en sueur, la bouche sèche et a envie d'hurler. Elle en a assez. Elle veut vivre et en même temps, elle a envie de mourir. Mais pour cacher tout ceci, elle monte à sa chambre et se couche sur le lit pour pouvoir pleurer son désespoir en paix. Quelquefois, lorsqu'elle accompagne sa petite sœur à l'école, au retour, elle a envie de prendre un autre chemin et de fuir cette vie. Tout ceci est à l'intérieur d'elle-même et personne ne peut s'apercevoir du bouillonnement de son âme. Le temps passe au rythme de l'horloge et de ma reine. Un matin, Félicie, après avoir mené sa sœur à l'école, s'en retourne. Sur le chemin qui la ramène à la maison, croise un homme qui la dévisage. Elle baisse la tête de honte, mais a eu le temps de voir. Il est grand, gros, il a un visage qui ne manque pas de grâce, les yeux bleus, les cheveux châtains, habillé en paysan. Félicie est troublée par cette rencontre. Elle a le corps qui bat. Entre chez elle avec précipitation. Ma reine, qui l'a vu entrer, tout essoufflée, lui demande « Qu'as-tu avec tout essoufflé ?»«
Rien, c'est bête. J'ai eu peur, un homme était sur le chemin, je l'ai croisé et c'est tout. »
« C'est sûrement Robert. Il a repris la ferme de ses parents un peu plus en haut, avec sa femme. Il est grand, gros ?»«
Oui,
c'est bien lui. Nous risquons de le croiser souvent maintenant. Ne lui parle pas. C'est un homme qui boit et a très mauvaise réputation. »
Félicie se demande ce qu'est qu'un homme qui a une mauvaise réputation.
Les jours passent et Félicie ne voit plus l'homme. Mais cela ne l'empêche pas, lorsqu'elle va prendre le petit chemin, d'avoir le corps qui bat d'émotion et de peur.
Un jour pourtant, elle le rencontre. Il tire un cheval avec une charrette en la croisant.
« Bonjour mademoiselle. »
Elle ne répond pas.
« Pourriez me répondre au moins. C'est ma grosseur qui vous fait peur. Les gros peuvent aussi être rigolos. Regardez. »
Elle se retourne et voit qu'il fait des pas de danse avec une extraordinaire souplesse. Elle pouffe de rire et se sauve en courant. Le lendemain, elle le revoit.
Bonjour mademoiselle.
Bonjour monsieur.
Elle pouffe de rire et se sauve en courant.
Ces brèves rencontres la mettent de bonne humeur toute la journée. Cela leur change de l'ambiance morose de la maison.
Le temps passe et se voient presque tous les jours, rien qu'un petit moment ensemble à rire.
Un jour, il lui donne un baiser sur les joues. Elle est tellement surprise qu'elle ne peut s'enfuir.
Eh bien, qu'est-ce que tu as, mon petit? Ce n'est rien qu'un baiser. Tu en verras d'autres et des choses encore plus douces que je peux te montrer si tu veux. J'en connais des choses, tu sais, et qui font du bien. Il faut que je te les montre un jour.
Elle est tellement bouleversée par ce qu'il vient de lui dire qu'elle se sauve en courant.
Mais, toute la journée, elle pense à ce qu'il lui a dit. Qu'est-ce que ces choses? Qu'est-ce que ces choses?
Le lendemain, elle le retrouve.
Alors, tu as encore peur de moi?
Pour le prouver, je t'embrasse.
Elle l'embrasse sur la joue et lui tient le menton.
Tu es mignonne, tu sais. Tu es même très belle. On pourrait sûrement t'aimer.
Il soupire et dit.
Tu es douce, toi, au moins. Tu n'es pas comme ma femme. Je suis malheureux, tu sais. Tiens. Asseyons-nous sur le rebord du chemin pour me faire plaisir. Tu as bien 5 minutes.
Il la prend par la taille et la fait asseoir.
Lui s'assoit à ses côtés en gardant ses mains à sa taille. Elle sent son bras et sa main qui sont brûlants.
Je suis malheureux, tu sais. Ma femme est une harpie. Elle s'est mariée pour moi mon argent. Elle me bat. une jeune fille comme toi que j'aurais dû avoir comme femme. Tu serais bien avec moi. Je t'aimerais. Je t'aime déjà, tu sais. Tu es belle et douce.
Il donne un baiser sur la joue.
Ta peau, c'est de la pêche. Tu seras bonne avec moi. Tu seras bien. Riche et tout.
Elle sent que sa main brûlante descend malgré le plaisir que cela procure. Quelque chose lui dit qu'il ne faut pas. Alors, elle se lève d'un bond et se sauve en courant jusqu'à chez elle. Bien sûr, cette sensation, elle la connaît. Lorsque sa marraine en fait autant, lorsqu'elle monte les escaliers et qu'elle la prend à la taille. Mais ses mains sont moins brûlantes. Durant toute la journée, son corps se souvient de cette sensation. Le lendemain, elle le retrouve, rouge de honte, le corps qui bat. Elle le dépasse, sans rien dire. D'un geste de la main, il la retourne, la plaque contre lui, la prend dans ses bras. « Je t'aime !» Et il l'embrasse sur les lèvres. Elle essaye de se défendre, mais elle est prise maintenant par ses deux mains et le plaisir du baiser. Lui la fait tomber à la renverse sur le chemin, se plaque sur elle. Elle n'ose pas se dégager. Elle a son visage contre elle, qui se penche de plus en plus, ses yeux qui brillent. Elle ferme les siens. Elle sent son poids contre elle. Il écarte ses jambes, soulève ses vêtements. Elle ne peut rien faire. Et puis... cette douceur étrange au bas-ventre et une douleur lancinante. Elle entend qu'il rougit, rue sur elle, puis, dernière raideur, elle a senti qu'il se soulève et le voit debout, qui range son pantalon. Elle essaye de se lever et est tout engourdie, se penche et se voit nue jusqu'au haut du ventre. Du sang le long des jambes. Elle fait « Ah !» de peur et n'ose plus bouger. Il se penche vers elle et lui dit « Ce n'est rien. Ce n'est rien. Tu es une femme maintenant. Prends ton mouchoir et nettoie-toi. Ce n'est rien. Ce n'est pas dangereux. » Prend son mouchoir et s'essuie en pleurant. Il s'assoit à côté d'elle et la baise. « Sois pas triste, tu es une petite femme à moi. Ce que nous avons fait, tous les amoureux le font. N'aie pas peur, ne dis rien à personne, surtout pas chez toi. Les choses se font et elles se disent pas. Tu es une femme maintenant, je t'aime. Je vais partir.
était la mienne. Et nous vivrons ensemble à la ville. Il sera une vraie dame en ville. Tu verras. Allez, lève-toi. Il faut que tu rentres.
Il l'aide à se lever, lui range sa robe et lui donne un baiser sur le front.
Allez, va vite.
Fais oui de la tête et cours à la maison.
Sur Marianne.
Pourquoi rentres-tu si tard?
J'avais perdu mon chapelet en courant et je n'arrivais plus à le retrouver. Et elle monta à sa chambre.
Se déshabille, se regarde, se nettoie mieux et change de linge.
Durant toute la journée, elle ne pense qu'à ce qui s'est passé. Souvenirs étranges, un mélange de peur et de plaisir. Cela la hante. Elle est curieuse de savoir si elle retrouverait la même impression. Ils se voient tous les jours, parlent. Lui dit qu'il l'aime vraiment et qu'il veut vivre avec elle.
Me bat.
Il a l'air si tendre et doux avec ses yeux bleus que malgré sa grosseur, elle a envie de le protéger. Le plus souvent, cela se termine par des caresses et une culbute. Elle s'est mise à aimer cela. Et n'a plus peur. Marianne la trouve changée, plus gaie. Ses joues sont plus colorées. Pendant qu'elle aide Félicie à changer ses draps, elle lui dit
« Que t'arrive-t-il? Tu n'es plus la même. »
« Rien, ma reine. » Un matin, elle se réveille avec de la fièvre. Comme elle n'est pas descendue de sa chambre, Marraine va la voir. S'approche du lit.
Qu'as-tu?
J'ai mal à la tête. J'ai chaud. Elle lui touche le front.
Tu as de la fièvre. Reste au lit pendant quelque temps. C'est Marie qui mènera Rosalie à l'école.
Elle reste de sommeil au lit. Marie la remplace. Marie revient de ses courses, tout essoufflée et pensive. Dès qu'elle peut, Félicie se lève. Elle refait le trajet pour mener Rosalie à l'école. Elle le retrouve. Il a l'air moins entreprenant et parle moins, mais continue à culbuter.
Le temps passe, elle forcit, devient plus forte et s'aperçoit qu'elle n'a plus ses règles.
Cela l'inquiète. Elle en pâte à Robert, son amant.
Change de couleur. Tu es enceinte.
Elle devient blême. Que vais-je faire, mon Dieu? Je suis perdue.
Ne crains rien. Je connais au village une femme qui peut te faire sauter. C'est ma tante. Tu iras la voir avec un peu d'argent. Et en un rien de temps, elle te fera cela.
Elle reprend courage.
Qui est-ce?
La mère Le Gros. La maison en face de l'église. Tu sonnes, elle a l'habitude, elle ne pose pas de questions.
Combien cela va coûter?
Il donne un chiffre à l'oreille.
J'ai pas cet argent.
Je ne peux pas t'aider, ma pauvre. Ma femme compte tout. Allons, courage. Nous te rentrons, tu te trouveras bien.
Et elle s'en retourne tristement.
Arrivée à la maison, elle réfléchit et se demande comment elle pourrait avoir de l'argent. Elle va dans sa chambre. Et ouvre son armoire pour prendre le coffre en argent où se trouvent ses économies.
Elle les a comptés. Il en manque au moins la moitié.
Elle soupire et se dit « Que vais-je faire? Comment vais-je trouver cet argent ?»
Elle marche dans la chambre en réfléchissant.
Rien n'a reçu de l'argent, de l'héritage, et autant à moi qu'à elle. Ce serait pas un vol.
Elle sort de la chambre.
Marianne est dans sa chambre, en train de préparer le repas. Vite !
Elle ouvre la porte de la chambre de Marianne et la referme. Il va ouvrir l'armoire.
Fouille sous les piles de linge pour retrouver billets ou pièces. Il faut que je trouve, mon Dieu ! Il faut que je trouve ! Il faut que je trouve. Elle cherche, cherche. Elle entend derrière elle la porte qui s'ouvre et se referme. Ça la fait sursauter.
Que cherches-tu?
C'est la voix de Marraine. Soupire, tremblante, et se retourne.
Que cherches-tu? Réponds.
Marraine est grande, maigre, au milieu de la pièce. J'ai besoin d'argent. Et comme vous avez eu notre héritage...
Pourquoi as-tu besoin d'argent?
Ah, les yeux perçants de ma reine. Elle sent qu'elle va défaillir. Et tout d'un coup, n'en pouvant plus, elle fond en larmes et se jette aux pieds de ma reine en lui tenant les pieds des deux mains, la tête baissée. Elle lui dit « Je suis perdue. Je suis enceinte. J'ai besoin d'argent pour me faire... »
Qui est le père?
Voisin Robert,
je m'en doutais. Je m'en doutais.
La reine se penche et lui enlève les mains de ses pieds.
Relève-toi, ça ne sert à rien de pleurer.
Elle l'aide à se relever et la guide pour qu'elle puisse s'asseoir sur une chaise.
Raconte-moi tout.
C'est en revenant de l'école. Je le rencontrais sur le chemin.
Il m'a séduite et promise de vivre avec moi.
Je comprends, pauvre petite. Il est marié et ne divorcera jamais. C'est un coureur.
Tu ne peux pas rester ainsi. Il t'a donné l'adresse de cette femme.
Oui.
C'est un crime.
Mais que faire? Dieu comprendra. Le coupable, ce n'est pas nous, mais cet homme. Je vais te donner l'argent et tu iras.
Merci, marraine.
Ce n'est rien. J'espère que tu n'oublieras jamais ce que j'ai fait pour toi.
Et elle ouvre l'autre côté de l'armoire.
On a sorti un portefeuille.
Le lendemain après-midi, Félicie se rend au village. Elle a sous son sein l'argent. Décidée, mais inquiète, elle sonne chez la vieille. En plein jour, devant tout le monde, la vieille vend du miel et Félicie peut tout aussi bien en acheter. On lui ouvre. Une petite femme toute maigre, les cheveux gris et bourriffés, le nez pointu, le visage sans âge. Elle est toute en os. Seule une chose a l'air vivante chez elle, ses yeux d'un bleu profond. Elle est habillée d'une robe noire et que dessus un tablier en fleurs.
Vous désirez ?
Félicie ferme les yeux. La vieille a compris. Elle a l'habitude depuis le temps.
Entrez.
Elle la fait rentrer. La maison est sombre, ça sent une drôle d'odeur. L'on entre directement dans la cuisine où il y a des étagères pleines de pots de miel, une table en bois, des chaises et une cheminée.
Il ne faut pas avoir peur, mon enfant. Vous pouvez tout me dire. Vous êtes dans les ennuis, n'est-ce pas? Vous avez besoin de mon aide. J'ai de l'habitude. Je peux vous désennuyer en n'en rien le temps. C'est cela?
Félicie fait oui de la tête. La vieille change et devient plus dure.
Vous avez la somme?
Félicie la lui donne. La vieille compte.
C'est bien. Et elle met l'argent sous ses jupes. Voyez, moi, mon enfant, mes jupes me servent à ça. Quand je les soulève, ça me rapporte. Et quand les autres les soulèvent, ça me rapporte aussi. On fait tout de suite la chose. Ensuite, on sera débarrassé. Venez, allons dans la pièce à côté.
Ne craignez rien. Vous ne sentirez rien.
Elle ouvre une porte. Fait signe à Félicie de la suivre. Félicie entre dans la pièce. La vieille femme ferme la porte. La pièce est sombre. Il y a une grande table en bois, un feu. Sur une petite table, des ustensiles bizarres. Tout est lugubre. Sur la grande table se tourbe un litre de vin et un verre. La vieille se sert et le boit. Elle a posé le litre à terre.
Allez,
Allonge-toi sur la table. Descends tes dessous. Allez, vas-y.
Félicie s'allonge sur la table.
Écarte les jambes.
Félicie met sur la table des vieux chiffons à terre, un seau d'eau. Elle retrousse ses manches et va chercher une espèce de crochet en fer. Félicie tremble toute. Cette pièce lugubre, cette vieille à moitié ivre et ses accessoires chiffons sales. Non, elle ne peut. Saute de la table et se sauve. La vieille n'a pas eu le temps de la rattraper, mais elle lui crie
« Comme tu voudras, ma petite, mais elle ne me demande plus rien. »
Félicie court jusqu'à la maison. Marianne la voit arriver. Elle la fait monter jusqu'à sa chambre.
Que s'est-il passé ?
Félicie en pleurs lui dit « J'ai pas pu, c'était trop horrible. Marraine effondrée lui dit
« Quel homme devenir maintenant ?»«
J'ai pas pu, c'était au-dessus de mes forces. » »«
Que Dieu nous aide. Je veux réfléchir à tout cela. Surtout, pas un mot à personne. Tu sortiras plus de ta chambre. Que ceci se serve de leçon. Les hommes sont tous pareils. Défie-nous. Il faut les éviter.
Oh, aucun autre homme ne s'approcha de moi, ma reine. C'est promis. Ma reine l'embrasse sur les joues.
Enferme-toi dans ta chambre et dis que tu es malade. Tes sœurs seront averties de ce malheur au dernier moment. Allez, va.
Félicie sort de la chambre. Ma reine est folle de joie.
Enfin, elle est à moi. Elle est à moi, à ma merci. Et avec elle, j'aurai aussi les deux autres. Un peu de patience, elles seront à moi. Nous vivrons tout ensemble, sans homme.
Désormais, Félicie reste enfermée dans sa chambre. Ma reine a dit à ses sœurs qu'elle était encore faible et qu'il ne fallait pas la déranger. C'est ma reine qui leur apporte ses repas et l'aide à se laver. Elle l'embrasse, la bichonne. Félicie est surprise.
Je croyais que tu étais fâchée, ma reine.
Mais non, ma chérie, ma toute belle. Reste allongé, tu dois te reposer. Nous serons très bien ensemble.
Elle lui caresse ses cheveux. Je ne rêverai jamais ce que tu fais pour moi, ma reine.
Je l'espère bien. Il faudra désormais m'obéir.
Je te le promets. Les autres sœurs sont inquiètes et demande des nouvelles.
Elle se repose. Il faut la laisser en paix.
Marie dit, faudrait peut-être faire venir les médecins.
Non, pas la peine. Je sais la soigner.
Les jours passent. Marraine va souvent dans la chambre de Félicie. Elle a pris l'habitude de fermer la porte à clé lorsqu'elle sort. Ceci ne gêne pas Félicie, qui a entièrement confiance en elle. Elle reste toute la journée allongée sur son lit. Marraine à côté d'elle lit et voit si elle n'a pas besoin, si elle n'a besoin de rien. Félicie, à force d'être allongée, grossit
à vue d'œil. Un jour, elle demande à marraine.
J'ai peur pour l'accouchement, marraine.
Ne crains rien. Tu n'auras qu'à faire ce qu'on te dira.
Vous allez chercher quel médecin ?
Non, je connais une sage-femme à Grenoble qui viendra s'occuper de toi.
Mais c'est loin, Grenoble.
Je l'ai invitée à venir passer quelques jours chez nous. Comme cela, elle sera là à temps.
Ne t'en fais pas, ma petite chérie.
Les mois passent. L'accouchement est proche. Marraine a fait venir la sage-femme, qui est une grosse femme forte et ferme.
Un jour, marraine dit à Félicie.
J'ai bien réfléchi. Pour ne pas déshonorer la famille, dès que l'enfant sera né, nous le mettrons aux enfants trouvés. Nous ferons en sorte à ce que personne ne le sache. C'est une rude épreuve que le Seigneur nous donne. Il faudra nous faire pardonner nos péchés en menant une vie exemplaire. Je pense que pour nous racheter tous, il faudrait qu'une d'entre elles entre au couvent.
Sera moi, marraine.
Surtout pas, ma chérie. Toi, tu rachètes tes péchés dans la douleur et en me restant soumise. Pour ton bien entendu. Mais ne parlons plus de tout ceci. Tu vas bientôt accoucher. Repose-toi.
Comme marraine ne peut éloigner les sœurs, comme elles vont s'apercevoir de l'accouchement, marraine les réunit dans le salon et leur parle.
Un grand malheur nous est arrivé. Votre sœur Félicie a été séduite par un mauvais homme et elle va avoir un petit bébé que nous pouvons garder car c'est l'enfant du péché, du diable. La naissance aura bientôt lieu. Je vous demanderai de rester dans vos chambres. Ce n'est pas un spectacle pour des jeunes filles et surtout de garder le secret. Sinon, le déshonneur tomberait sur nous.
Marie est toute pâle.
Vous me le jurez ?
Elle jure. Marie a pitié de sa sœur. Elle se dit :
ce qui m'arrive aurait pu m'arriver. Elle veut voir sa sœur et la consoler.
Elle observe les allées et venues de marraine. Et un jour, elle oublie de fermer à clé la porte de la chambre. Marie entre. Elle voit Félicie au lit, énorme en sueur, qui est surprise de la voir.
Marie, que fais-tu là ?
Marie fond en larmes et se met à genoux au pied du lit.
Je te demande pardon, ma sœur. Moi aussi, j'ai failli être comme toi. Je ne comprends pas, Marie. En revenant de l'école, pour Rosalie, j'ai été séduite par Robert. Il m'avait promis le mariage, mais comme je pouvais sortir souvent, nous ne nous sommes plus vus. Malheureusement, il a eu le temps de me séduire. C'est pour cela que je dis que je te comprends.
Félicie pleure et dit
« Tu es brave, une brave sœur. Fais attention aux hommes, désormais. Ce sont eux les ennemis. Ils vous déshonorent pour s'amuser. »
Marianne, doucement le supplier, le feu, par pitié me réconforte.
L'accouchement a lieu une nuit. Marraine a fermé dans leur chambre les filles et avec la sage-femme, elle s'affaire.
Ainsi soit-il.
Mon Dieu, ma bonne mère, j'ai mal.
Il le faut bien, Marie-Jeanne. Le Seigneur l'a voulu pour ton péché.
Mais j'ai trop mal.
Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Marraine. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement,